Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, il est déjà 9h dépassé, c'est qu'on va commencer même s'il y a peu de personnes d'arrivée. Il fait beau. Je sais pas trop. Peut-être qu'il y en a qui pensaient qu'on réavançait l'heure ou on la reculait le matin. Ce n'est pas le cas. On va commencer aujourd'hui. Ça va être un petit peu un cours de géographie. Je vous dis pas que vous allez sortir profondément édifié puis que Dieu va vous avoir montré quelque chose de spirituel, mais je veux dire, on va quand même prendre le temps de passer au travers le chapitre 10, parce que je trouve que c'est intéressant. On a beaucoup d'informations qu'on a nulle part ailleurs dans les autres écrits anciens. Oui, allez-y. Oui, il est venu me voir. On l'avait barré, je crois que lui, il est arrivé pour la barrer, il l'a débarré. C'est que là, il avait l'impression que, en tout cas. Mais oui, on est au courant, pas de problème. Genèse 10. C'est que pour suivre, ça serait bien. J'ai envoyé les courriels hier en passant pour les dernières leçons. C'est que vous êtes supposé avoir reçu des courriels hier soir. J'ai envoyé ça hier après-midi. Et quand dans Genèse 10. Ce que je vais faire aujourd'hui, dans le fond, là, on va passer au travers tous les fils de Japhet et les fils de Cham, et on va se rendre jusqu'à Nimrod, qui était un des fils de Cham qui a été mentionné avec un peu plus de détails. Puis on va se rendre au moins jusque-là. On va peut-être parler un petit peu des fils de Sem aussi. Comme on a dit, c'est pas clair. Comme j'ai dit au début, parce que M. Prévost m'en parlait tantôt, La tradition juive l'affirme, puis probablement c'est ça qui est arrivé. C'est probablement Moïse qui est reconnu comme l'auteur de la Genèse. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que Moïse a nécessairement écrit directement sous inspiration de l'Esprit toutes les phrases de la Genèse. L'Esprit de Dieu peut aussi diriger pour recueillir des textes qui étaient déjà existants. On comprend que depuis, c'est même possible qu'il y avait des vieux textes qui étaient peut-être gardés déjà par des patriarches. Mais Moïse était dirigé par l'Esprit, s'il a décidé de compiler certains textes, d'en éditer certains, puis de mettre ensemble. C'est quand même le sous l'œuvre du Saint-Esprit qui l'a fait. C'est pour ça qu'on lui donne le crédit ou le fait qu'il soit l'auteur ou l'éditeur du texte. C'est vrai qu'entre autres, j'ai mentionné avec la table des nations dans Genèse 10, il y a énormément d'informations là que la seule façon d'avoir, c'est soit que Dieu l'a révélé, de le révéler à quelqu'un plus tard. Mettons, Moïse, as-tu révélé ça là, de l'information? Moïse n'aurait jamais pu savoir, ce qui est une possibilité. Ou c'est de l'information, ce qui serait plus possible, c'est de l'information qui aurait été conservée. Et c'est très typique, c'est très normal là, quand tu veux garder un petit peu la généalogie de tes familles, de ton clan, tout ça, de garder cette information-là. Mais vu que tu es humain, ça se peut qu'en la gardant, tu fasses des erreurs. Et c'est là que l'Esprit de Dieu est intervenu pour pas qu'il y ait d'erreurs dans ces informations-là qui ont été gardées. En tout, dans le chapitre 10, on a l'histoire des nations, la table des nations. De toute évidence, il y aurait quelqu'un qui a répertorié jusqu'à un certain nombre de générations les descendants de Sem, Cham et Japhet. Mais il s'est pas rendu aussi loin avec Japhet. On a vu que c'est rendu à la deuxième ou troisième génération, Cham à la troisième. C'est seulement avec Sem que ça s'est rendu à la sixième génération dans les détails qu'il nous donnait. C'est qu'il était limité même dans ce qui a été donné. C'est pour ça qu'on suggère probablement, c'est pas grave que ça soit vrai ou non, mais on suggère probablement que ça soit Sem qui aurait compilé cette information-là. C'est pour ça que quand il parle de lui-même, quand il parle de ses propres enfants, il est capable de donner plus de détails, puis il se rend jusqu'à Peleg, puis Joktan, puis les fils de Joktan, il se rend jusqu'à la sixième génération. Puis, à quelque part, Sem avait un souci aussi de voir la prophétie, la promesse du Messie s'accomplir. C'est toute la prophétie de la descendance de la femme. Il y avait un Sem en étant près de l'Éternel, c'était quelque chose, c'était certainement d'informations qu'il voulait garder, il voulait garder la lignée, tu sais. Puis même dans la prophétie de Noé, à son égard, il y a vraiment un encouragement pour s'aligner à lui. Oui. Tout à fait. Puis ça veut dire aussi que Noé, par rapport à la promesse de Genèse 3:15, Noé devait la connaître aussi, parce que Noé était le seul qui marchait avec le Seigneur avant qu'il donne naissance à ses trois fils. Et je disais hier à Christine, justement, en regardant, ça prend pas beaucoup de monde pour de Adam de Adam à Abraham, ça prend juste 4 gars qui ont gardé la promesse, OK? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les Sem, là, quand il est mort, là, Jacob avait 48 ans. Pensez-y, là. C'est Sem ici qui est sorti de l'arche. Il est mort, Jacob, on est rendu Jacob, c'est 11 générations plus loin, là. Isaac, Jacob, on a de l'histoire de Genèse. Jacob a 48 ans lorsque Sem est mort. C'est que quand même, vous comprenez que le... Tu ne veux pas dire qu'il vivait géographiquement proche, mais quand même, surtout que la lignée de Sem sont demeurées dans le Moyen-Orient, Sem était capable de... Sem est encore là même pour parler de ce que lui avait vécu, puis des promesses qu'il avait reçues, puis des prophéties. C'est qu'Adam, quand il est décédé alors que Mathusalem était né, Adam. C'est que de Adam, on se ramasse après ça avec Mathusalem, qui était le père de Lémec, qui est le père de Noé. C'est des gars qui ont marché avec le Seigneur. Lémec, le père de Noé, semblait être quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. C'est que facilement, de Adam, on peut se rendre jusqu'à Lémec, le père de Noé. Puis après ça, Mathusalem, il est décédé. Il vivait, il est un peu Mathusalem, à Noé, évidemment, là. Puis après ça, de Noé, il donne à Sem, puis on est rendu à Abraham, là, facilement, là. C'est que facilement, de Adam à Abraham, on a juste besoin de quatre, si on veut, hommes de Dieu ou famille qui gardent cette vérité-là, puis qui la transmettent. Tu sais, des fois, on a l'impression là, que ça s'est passé, puis il y a du temps. Oui, mais ils sont encore vivants, morts. Le monde mourait moins vite à l'époque avant le déluge. Puis Sem, c'en est un qui a vécu 600 ans quand même. Il a vécu 500 ans après la naissance d'Arpachad, on va le voir, c'est qu'il a quand même vécu longtemps. Mais après Sem, lorsqu'on regarde la généalogie, ça les décrue assez vite. Là. Les gens ont finalement commencé à mourir dans les 100, 150, 200 ans. Tu sais. C'est juste pour vous dire, ça met en perspective de garder, si on veut, la connaissance de l'Éternel pouvait se garder et se transmettre plus facilement qu'on peut l'imaginer. Est-ce que quelqu'un a une question pendant que je parle? J'ai vu une main. L'autre chose, hier, j'ai dit à Christine d'ailleurs, c'est ça, je n'avais jamais réalisé. Oui, mais Bertrand. Oui, ça, s'il s'en souvenait, oui. Oui, tout à fait, mais ça change la dynamique parce que tu vois énormément de générations de tes enfants. On s'entend que tu perds un peu, tu perds le film. Et le point, c'est que si tes arrière petits-fils voulaient quoi que ce soit, avoir de l'information sur le passé, mais les personnes sont encore vivantes, il y a quand même un aspect où ce qu'ils peuvent aller. Tu vas voir le patriarche. C'est ça, c'est vrai qu'il a vécu, longtemps. Hein. C'est que l'autre chose aussi, c'est que après le déluge, je n'avais pas mentionné, mais c'est assez évident que vous comprenez que dans le texte, ça nous dit clairement que toutes les nations sont sorties de Sem, Cham et Japhet, donc Noé n'a pas eu d'enfant après le déluge. Parce qu'on aurait, c'est comme si il dit que les nations, c'est assez clair dans le texte, les nations sont sorties de ces trois fils-là. C'est probablement ça a été les trois derniers fils de Noé. Noé n'a pas continué après. On n'a pas trop d'informations sur sa femme d'ailleurs. Hein? Les quoi? Enfants de Noé? Les trois seuls qu'il y a eu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des enfants avant Sem, Cham et Japhet. Parce qu'il y avait 500 ans, là, on a déjà parlé de ça, il y avait 500 ans lorsqu'il y a eu Sem, Cham et Japhet. Okay? À partir de 500 ans, il y a eu les trois. C'est que rien ne nous dit qu'il n'y en a pas eu avant 500 ans, c'est que parce qu'il a quand même vécu longtemps, mais s'il y en a eu, il ne marchait pas avec le Seigneur. Ça, c'est clair qu'il a rendu. Ça va être du monde. Mais c'est pas du monde qui aurait... Il aurait pas suivi parce qu'à ce moment-là, il était le seul juste sur la terre. C'est qu'on arrive au verset, et là, j'en viens au chapitre 10 qu'on va faire l'exercice là, que ni moi, ni vous, ni moi, on aurait pu faire par nous-mêmes parce qu'on n'a pas assez d'informations. Je vais essayer de vous dire un petit peu comment que les peuples se sont répartis. Parce que moi, je ne connaissais pas, ni vous, beaucoup la géographie de cette époque-là, dans cette région-là. Puis en même temps, vous sensibiliser au fait que, lorsqu'on étudie les noms, on retrouve les formes de noms, se retrouvent après ça dans l'histoire, dans des peuples et puis dans des villes. C'est qu'on est capable de retracer aussi comment les ancêtres, c'est qui les ancêtres de tel peuple, aussi à cause des noms. Et je vous avais mentionné juste l'autre fois, là, je vais le rementionner, juste le nom de Japhet, on retrouve la forme de son nom dans le père légendaire des Grecs, Iapetos. Japhet, J-A-P-H-E-T, I-A-P-E-T, vous voyez, Japhet, Japhetos. La même affaire là, dans le peuple, c'est l'ancêtre réputé des Aryens, qui est un des premiers peuples qui ont colonisé l'Inde ici. Donc, tout ça, on sort de l'arche ici, OK? Et c'est pas mal là aussi que ça, c'est ça. On sort de l'arche ici, l'Inde est là, OK? C'est qu'on parle de Japhet qui aurait colonisé l'Europe et l'Inde ici. On a l'Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde. C'est avec les Indo-Européens. Donc, même l'ancêtre des Aryens ici, elle serait Yapeti. I-Y-A-P-E-T-I. On voit encore, on retrouve au niveau de l'étymologie le nom de Japhet. Donc, si on va dans 10, verset 2, 4, les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Yavan ou Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Là, je suis conscient que dans vos versions, ça peut varier un petit peu. Là. Donc, on nous mentionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fils de Japhet ici. Gomer. Là, avant d'aller voir les fils de Gomer, juste Gomer, son nom, on le retrouve dans un district, une région qui s'appelle, en anglais, c'est Cimmeria. C-I-M-M-E-R-I-A. Encore là, Gomer, Cimmer, vous voyez, là, qui peut avoir une ressemblance. C'est une région. Ici, vous avez la mer Noire. C'était une région au nord de la mer Noire. Il y a beaucoup de peuples qui se sont établis dans cette région-là, autour de la mer Noire. Vous comprenez que c'était le territoire qui était tout de suite en sortant de l'arche. Là. C'est que beaucoup de peuples anciens qui viennent de ces territoires-là. D'ailleurs, si vous en voyez un peu mieux la carte, là, je n'ai une plus grosse. Vous avez la mer Méditerranée ici. OK? Vous savez que la bottine, c'est l'Italie, vous avez peut-être appris ça. Là. Puis la deuxième pointe ici, c'est quoi, après l'Italie? La Grèce. La mer, là, dans le fond, qui fait comme un fils ici entre la Grèce puis la Turquie. La Turquie, c'est ça, c'est la mer Égée. La mer Égée, elle, se rejoint avec cette grosse mer intérieure-là qui est la mer Noire. Elle est rejointe par un détroit, le détroit des Dardanelles, qui est un détroit super important au niveau économique encore aujourd'hui. C'est comme si on veut, c'est là que l'Europe se sépare de l'Asie. C'est que c'est un détroit qui est important. Donc, on a la Turquie qui est quand même un grand pays. Juste au sud de la Turquie, là, c'est ça, la Syrie, c'est quand même, la Syrie, c'est un grand pays. Hein. Ça fait beaucoup les nouvelles, là, mais c'est un très grand pays comparé au Liban et Israël qui sont juste à côté. C'est très minuscule. C'est que vous avez la Syrie qui est quand même assez grand ici. L'île de Chypre, c'est une des îles qui a été colonisée assez vite aussi par des peuples. Là. Les Philistins sont originaires de l'île de Chypre. L'île de Chypre, c'est une île qui est juste au large de la côte. Où est-ce que toute l'histoire de l'Ancien Testament s'est passée, là, tu sais, le long de la côte ici, là, où est-ce qu'on a Israël aujourd'hui, la Palestine. Donc, la Turquie, ici, vous avez même aujourd'hui, au moment où on se passe, vous avez des petits pays ici, dont l'Arménie, là, c'est un pays très, très fermé, qui fait des fois un petit peu les nouvelles, là, c'est un pays très fermé, l'Arménie, ici, c'est un petit, petit pays, mais les Arméniens, ça a été un ancien peuple très puissant là, dans le passé. Et tout ici, vous avez beaucoup d'anciens pays, des pays de l'ancienne URSS qui ont maintenant eu leur indépendance là, depuis que l'URSS a sauté. C'est qu'il y en a tout le long ici, au nord de l'Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde. Là, vous avez tous ces pays-là qui finissent par temps, là, Kazakhstan, Turkistan, Tadjikistan, toute la patente de ce temps, là, il y en a bien là-dedans. Là. C'est que l'Azerbaïdjan est là. Puis il y a aussi la Géorgie. La Géorgie, c'en est un. Là. La Tchétchénie est là-dedans aussi. La Géorgie, c'en est un des pays qui est un des anciens pays de l'URSS qui est juste ici, là, juste à l'est de la mer Noire. Il y en a un ramassé de 3-4 ici, là, bien collé. Puis l'autre mer, c'est qui sait c'est quoi le nom de sa mer-là? Non. Une autre grosse mer, presque aussi grosse que la mer Noire, un peu à l'est. C'est la mer Caspienne, c'est ça. Caspienne. La mer Caspienne. Non, là, si tu parles de la mer morte, là, la mer morte, c'est une... Non. Il y a une qui a séché. Ça se peut, c'est la mer d'Aral, ici. En tout cas, il y a la mer d'Aral, on le voit qu'elle est rendue une bonne partie marécageuse, ici, d'après le dessin. Mais ça, c'en est une autre mer qui est connue. Mais les deux grosses, ici. Quand on parle de la mer morte, c'est vraiment une minuscule mer, là, en Palestine, là, puis c'est... C'est la mer morte là, qui a tellement de sel dans son eau que tu peux que tu flottes encore plus, là, tu te couches dedans parce que là, il y a plus de poids en dessous de toi. Là. Ouais, c'est ça. C'est que Gomer, on retrouve son nom dans ce district-là. Et cette branche-là des descendants de Gomer, on va le voir dans ses fils-là, mais il serait à l'origine, il y aurait un groupe qui serait parti là, qui serait allé vers l'ouest, puis on retrouve leur nom dans les anciens noms donnés à l'Allemagne. l'Allemagne, et même on retrouve les origines de son nom dans le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est un des morceaux du Royaume-Uni, là, ici. Là. Donc, vous avez l'Angleterre, le Royaume-Uni, là, c'est l'île de l'autre bord ici de la Manche. La France est là, l'Allemagne est là, Royaume-Uni. C'est que des fils de Gomère se seraient rendus, on retrouve de son nom en Allemagne et au Pays de Galles. Maintenant, on va le voir plus clairement dans les fils de Gomère. Au verset 3, il se concentre maintenant sur l'aîné de Japhet. Fils de Gomère, Ashkenaz, Riphath et Togarma. Ashkenaz, c'est vraiment un nom qui est associé aux Allemands, à l'Allemagne. Jusqu'à ce jour, les Juifs appellent les Allemands les Ashkenazis. Okay? C'est que même le nom d'Ashkenaz, là, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. C'est clairement que les Allemands, le peuple allemand est originaire de Japhet. Okay, donc, originaire du fils de Gomère, qui est le premier fils de Japhet. Et on retrouve le nom d'Ashkenaz qui était préservé aussi même dans le nom Scandinavie. Ashkenaz, Scandinavie, Scandinavia. Okay, ben ça, c'est des études en étymologie. Là. Ça a peut-être l'air léger. Il faut comprendre qu'avec le temps, on voit les noms aussi se modifier. Tu pars d'un Ashkenaz, puis tu peux avoir 1500 ans plus tard Scandinavie, mais on voit des ressemblances. Là. Moi, le mot Scandinavie, je viens de vous le dire en français aussi. Il faut réaliser ça. Mais on peut même, et la Scandinavie, les pays de la Scandinavie, c'est tous les pays au nord de l'Europe ici. T'sais, vous avez l'Allemagne, la Scandinavie, c'est les pays nordiques ici. On parle de la Norvège, de la Suède, puis de la Finlande, OK? On a le Danemark qui est juste ici au nord de l'Allemagne aussi. C'est qu'on retrouve en étymologie Ashkenaz dans les mots Scandinavie et dans les mots saxons aussi. Le mot saxon aurait des racines similaires à Ashkenaz, OK? Les saxons, c'est vraiment les... La Saxonie, c'est vraiment en Grande-Bretagne, si je me trompe pas, ou si c'est dans le nord de la France, OK. Vous voyez déjà, là, on retrouve en étymologie Japhet, on retrouve son nom un peu partout en Europe, OK, ou le nom d'un de ses fils ou de ses petits-fils. J'espère que c'est clair quand je parle d'étymologie. Hein. Si mon ancêtre, je vais honorer souvent son nom, son nom va se retrouver comme les fils d'un tel, on va les appeler, admettons, les Mathieuiens, parce que c'était Matthieu l'ancêtre. Puis là, à un moment donné, il m'a construit une ville, m'a l'appelé Mathieu, en honneur de Matthieu. Puis là, avec le temps, ça évolue, mais les peuples, ils vont faire appeler plus les Mathieuiens, parce que 800 ans plus tard, on les appelait les Mathéens, puis éventuellement les Mathiens. Puis là, mais tu retrouves le nom d'origine de la Ça finit par les Martiens, c'est ça. Donc, c'est ça en étymologie. Mais ça, c'est une étude qui se fait en parallèle avec des études en archéologie, parce qu'il faut que tu creuses, puis à un moment donné, tu trouves des tablettes qui utilisent certains noms. C'est qu'il faut que tu aies des textes des peuples anciens, il faut que tu aies des noms de villes, tu sais. Puis là, si ça se fait en même temps, ça te permet aussi de voir l'évolution des peuples, comment ils ont migré probablement. Maintenant, ici, on a de l'information super claire dans le chapitre aussi, là. OK, Riphath. Riphath, c'est carrément un des autres fils de Gomère. Vous comprendrez que je connais pas tout ça par cœur, je vais me référer. La Riphath, il serait l'ancêtre, selon Joseph. Vous connaissez peut-être un peu Joseph de nom, c'est un historien très ancien, Joseph, là, Josephus. Là. Et lui a donné beaucoup d'informations que lui avait récoltées d'ailleurs, je sais pas exactement où. Selon lui, Riphath serait l'ancêtre des Paphlagoniens. Ça vous dit rien, moi non plus, je suis allé voir. Paphlagonien serait un peuple qui est important, qui aurait été au sud de la mer Noire, juste ici. Là. Je dis ça parce que il y a certains noms qu'on trouve dans Genèse 10 qu'on retrouve ailleurs, comme Joseph en parle, tu sais, de Riphath, mettons. Joseph, lui, ses écrits ne sont pas inspirés. On parle, c'est des écrits d'un historien, donc on peut des fois compléter l'information biblique avec des informations extra-bibliques. Togarma étant le nom d'un autre des fils de Gomère, l'aîné de Japhet. Et certainement, Togarma est certainement l'ancêtre des Arméniens, qui était un ancien peuple puissant au nord de la mer Noire. Donc, on ne parle pas des Arméniens aujourd'hui, qui font partie du peuple arménie, mais qui, dans le fond, aussi, si on veut, même le peuple de l'Arménie aujourd'hui, le pays, c'est une réminiscence, un souvenir d'un peuple plus grand, les Arméniens qui étaient au nord de la mer Noire aussi. Donc, Togarma serait leur ancêtre. On voit des fils de Japhet, il y en a qui sont vraiment restés dans le coin, il y en a qui sont allés plus vers l'ouest ici. Et ça, les Arméniens, dans leur propre tradition, ils appellent Togarma leur ancêtre. On retrouve ça dans leur propre tradition. Et d'autres possibles connexions étymologiques pour le nom de Togarma. D'autres possibles, Togarma, Germany, OK? Garma, Germany, vous voyez l'idée. Togarma, Turquie. C'est qu'on retrouve peut-être le nom de Togarma dans le pays de la Turquie ici, dans son nom. Et le Turkistan. Tu sais, je vous dis qu'il y a un des anciens pays de l'URSS, c'est le Turkistan qui est juste à côté ici, là. Là, c'est l'Ouzbék. On va essayer de le trouver, lui. Attendez. Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Ukraine. En tout cas, il était quelque part là-dedans, là, je le vois pas. Il doit être vraiment petit. Là. J'ai dit le Turkménistan. Ben, Turkistan, c'est peut-être moi qui ai des fois qui translate. Peut-être Turkistan en anglais, puis en français, c'est Turkménistan. C'est peut-être. C'est peut-être ça, des fois, là, de l'anglais au français, donc Turkménistan, il serait juste ici, là, juste à l'est de la mer Caspienne, pas très loin. Okay? On retrouve le nom de Togarma dans ces termes-là. Après ça, c'est tout ce que j'avais mentionné pour les fils de Gomer. On regarde le deuxième fils de Japhet. On vient de parler de Gomer, on a parlé des fils de Gomer. On retourne au verset 2, on parle de Magog. Magog, le deuxième fils de Japhet, ça veut littéralement dire « fils de Gog ». Okay? Et il réfère probablement à la Géorgie. Gog, Géorgie, vous voyez les liens. Là? La Géorgie est encore ici un pays juste ici à l'est de la mer Noire, qui est encore un pays aujourd'hui, un ancien pays de l'URSS. Donc, et selon Josephus, selon Joseph, Magog aussi serait l'ancêtre des Scythiens. S-C-Y-T-H-I-E-N. Un autre peuple important ancien. C'est que je dis ça, s'il y en a qui, si vous êtes des descendants des Scythiens, mais vous venez d'avoir d'informations sur votre histoire. Souvent, Magog a été associé dans la Bible à Méchèche et Tubal. Et on va aller voir, Méchèche et Tubal étant deux autres fils de Japhet. Donc, Magog est souvent associé à Méchèche et Tubal. Dans vos Bibles, c'est peut-être écrit Méchèque et Tubal. Puis, je vous donne un verset pour ça qu'on peut aller voir rapidement dans Ézéchiel 38, 2, 6. C'est que ça veut juste dire probablement que ces trois frères-là ont été géographiquement ensemble. C'est que... y a-t-il quelqu'un qui veut juste me lire Ézéchiel 38, 2 à 6? Parce que dans le reste des Écritures, il y a beaucoup de ces patriarches-là qui reviennent même dans les prophéties, dans les petits prophètes, quand Dieu parle de certains peuples, il va faire référence à leur père. Tu sais, maintenant, il va dire « Je te maudis, toi, Javan », mais il fait référence à un peuple, dans le fond, qui descend de Javan. Oui, 38, Ézéchiel 38, 2 à 6. Vous voyez, là, on vient d'avoir une mention, là, on vient de mentionner Magog, Méchèque et Tubal, dans les trois fils. Six. Merci. Vous voyez, juste dans ce texte-là prophétique d'Ézéchiel, il fait beaucoup de références à des anciens patriarches. Il parle de Togarma ici, qu'on vient juste de voir, qui est un des fils de Gomer. On voit dans le texte, il parle de Magog, de Tubal et de Méchèque. Il mentionne deux fois les trois ensemble. Il fait des références même à Put. On va le voir plus tard. Le Put, c'est un fils de Cham, si je ne m'abuse. Fils de Cham, c'est le troisième fils de Cham. C'est que même Dieu, à travers ses prophètes, lorsqu'il des fois il va parler de l'histoire de certains peuples, puis les peuples qui sont intervenus dans l'histoire d'Israël, puis des malédictions de certains peuples, il fait référence à leur père, c'est-à-dire carrément à leur ancêtre ultime qui a parti ce peuple-là. C'est qu'on fait des liens dans ce cas-ci, c'est que on voit que les trois fils que je viens de vous dire sont souvent mentionnés ensemble, entre autres dans ce texte-là. Méchèche et Tubal mentionnés avec voyons, je viens de perdre le nom, avec Magog. Donc, ce serait les ancêtres des Russes, Méchèche, Tubal. Le lien entre Méchèche, on le voit assez rapidement avec Moscovie, les Moscovites, on a dit ça en anglais, les Moscovites, ou Moscou. Donc, Méchèche aurait donné lieu à Moscou, aurait donné lieu aux Muscovites. Excusez-moi, c'est-tu en anglais, Moscovite? C'est d'où que je pognais ça, moi? C'est en anglais, hein, ça. On dit pas ça en français, là. On dit en français pour les gens qui habitent Moscou? Les Moscovites, hein. Et Tubal, donc, qui sera un frère proche de, Magog, on retrouve dans une ville actuellement, là, en Russie, une ville s'appelle Tobolsk. Tubal, Tobolsk, on retrouve encore des noms de villes comme ça qui ressemblent, qui donnent des souvenirs de leur ancêtre. Et Roche, pourquoi j'ai Roche ici et Russie? Tubal et Tobolsk, Roche. Il y a de quoi que j'ai manqué ici, là? Ah, il mentionnait roche, ok, c'est ça. J'aurais dû lire le texte. Je pensais parler d'une roche, mais il parle d'un des fils dans cette famille-là qui s'appelle Roche, R-O-S-H. On retrouve son nom encore dans Russie, Russia, Roche, ok. C'est trois fils-là des fils directement de Japhet. Ça aurait été une gang qui aurait été un peu plus au nord, eux autres, ok. Donc, qui aurait été vers la Russie. Donc, tous ces pays-là ici initialement qui faisaient partie de la Russie. Donc quand on parle de la Russie, on parle vraiment plus de la Russie occidentale, plus de l'ouest de la Russie, moins un peu. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui habitait dans cette région-ci. C'est-à-dire, on parle de la Sibérie, là, c'est cette région-là de la Russie, OK? Vous avez la Mongolie ici, là. Ça existe beaucoup plus des Mongoloïdes par là-bas, plus des Asiatiques, OK? C'est que toute la Russie qu'on parle d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, qui est la plus habitée, c'est vraiment l'ouest de la Russie. L'est, c'est pas facile pour la vie. OK? Madaï, donc on va voir un autre fils, le troisième fils de Japhet. Madaï, pensez qu'il a donné naissance à quel peuple important dans l'histoire? Madaï. Non, mais un peuple que vous connaissez, qu'on entend parler dans Daniel, dans le prophète Daniel. Les Mèdes. Les Mèdes et les Perses. Les Mèdes ont été un peuple très, 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 très puissant. Donc, Madaï est clairement l'ancêtre. Il y a des choses qui sont très claires, comme je vous dis là. Madaï est clairement l'ancêtre des Mèdes, qui, à leur tour, avec certains descendants de Sem, sont devenus les ancêtres des Perses, parce que les Perses étaient à la suite des Mèdes, OK? Et de ce groupe-là, se sont développés les Aryens qui ont migré plus tard dans ce qu'on connaît maintenant comme l'Inde, j'en ai parlé tantôt. C'est parce que les Mèdes et les Perses ont dominé vraiment dans une région qui correspond à l'Iran d'aujourd'hui, si on veut, là. Puis éventuellement, il y a de ce groupe-là, il y en a qui ont été un peu plus à l'Est, puis les Aryens qu'on les appelle, puis qui ont développé l'Inde. Et finalement, on a, pas finalement, un autre Javan, un autre des fils de Japhet, Javan. Javan, c'est la forme originale de Lyonie. C'est le même mot que Grèce. Même dans la Bible, souvent dans l'Ancien Testament, des fois, ils vont carrément interchanger Javan avec la Grèce. Okay? C'est vraiment même anciennement, là, la Grèce était appelée Javan. Okay? C'est la forme originale, si on veut, de la Grèce. C'est un terme qui est interchangé. Là, j'ai sorti des versets pour ça. J'ai pas sorti. Il y en a des. J'aurais pu sortir des versets de l'Ancien Testament. Donc, si on veut trouver le fils de Japhet qui est directement originaire, qui est l'ancêtre des Grecs, on parlerait de Javan dans ce cas-ci. Des fils de Javan sont mentionnés. D'ailleurs, on en a un peu plus au verset 4 sur Javan. Il y a trois fils qui sont mentionnés: Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. D'Elisha, on a retrouvé toute la terminologie qu'on dit. D'Elisha est venu le terme Hellas, H-E-L-L-A-S, les hellénistes. Vous comprenez, quand on parle des Grecs, on parle des hellénistes, ben, ça vient de Hellas. Hellas viendrait de Elisha. Donc, vous voyez, Hellas, Elisha, la ressemblance, Elisha étant un des fils de Javan. Tarsis, un autre des fils de Javan. On a retrouvé son nom en Espagne et en Afrique du Nord, Tarsis. Vous pensez peut-être à Tars, le Paul de Tars, mais c'est plutôt son nom était plutôt retrouvé en Espagne et en Afrique du Nord. Ça aurait été un des premiers qui se serait rendu, un des fils de Japhet qui se serait rendu. L'Espagne est vraiment, on est vraiment à l'extrême ouest de l'Europe. Et le nord de l'Afrique ici, OK? On aurait trouvé son nom à Carthage, dans ces coins-là. Carthage ici, c'est dans le nord de l'Afrique, c'est juste l'autre bord de l'Espagne. On aurait trouvé son nom-là, OK? Après ça, Tarsis, il aurait été conquis par d'autres, là, mais Kittim. Kittim étant un autre nom, un autre fils de Javan. On voit ici une référence à Chypre. OK? Kittim, Chypre. Chypre en anglais, c'est quoi? Cyprus, OK. Donc, on voit la référence à Kittim, et là, Kittim de ses descendants serait venu coloniser Chypre, et juste l'île qui est juste ici. Après ça, Dodanim, ça serait de toute évidence, Dodanim, c'est le même nom que Rodanim. Si vous allez dans 1 Chronique 1-7, il reprend toute cette information-là dans 1 Chronique 1-7. Je vais juste aller tourner vite.
Dans les chroniques des rois, on remonte jusqu'au patriarche, jusqu'au déluge, OK?
on passe vite sur ces textes-là, là, mais dans 1 Chronique 1, on ne va pas le lire au complet parce que ça répète. C'est que d'aller en 1 Chronique 1, par exemple, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malaléel, etc., ça descend jusqu'à Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiran. Vous voyez, on reprend carrément chapitre 10, puis on arrive au verset 7, fils de Yavan ou de Javan, Elisha, Tarshisha, Kittim et Rodanim. C'est ici, il parle de Rodanim, c'est évidemment la même chose que Dodanim, parce que c'est deux textes parallèles. Et ça, puis pourquoi je mentionne Rodanim au lieu de Dodanim, c'est parce qu'on le trouve. Vous avez mentionné Rhode Island? Ben justement, là, ben Rhode Island ici, mais Rhode, là, c'est une ville grecque, c'est une île grecque. Rhodes, RH, oui, c'est une île grecque ici en mer Égée, donc une réminiscence de Rodanim, OK? Et le Dardanelle, quand on parle du détroit ici de Dardanelle, bien Dardanelle encore a des réminiscences de Rodanim ou de Dodanim, OK? Et finalement, on a Tiras étant le dernier fils ici mentionné de Japheth. On remonte au Mononc ici, Tiras serait l'ancêtre des Thraciens. Thraciens, les Thraciens qui est un peuple qui aurait dominé en Europe centrale et en Europe du sud-est, un peu plus vers la Turquie. OK, donc on passe, comme je vous dis, là, je ne vais pas me répéter ça, puis c'est de l'information qu'on ne se rappelle pas de toute façon, mais c'est intéressant de voir. Vous voyez, là, on vient de passer à travers tous les fils de Japheth, si je ne me trompe pas. Oui. Fait que, un fils de Japheth, on en a qui se sont rendus jusqu'en Inde ici, autour de la mer Noire en Turquie, mais on a vu Scandinavie, Allemagne, Anglo-Saxon, Espagne, nord de l'Espagne, on a vu Russie. Regardez, ils ont vraiment été Europe, ce qu'on appelle les Indo-Européens, OK, ici, là. Donc, ils se sont un peu plus élargis que Sem, pas autant que Cham, OK. Sem est vraiment resté dans ce coin-ci, là, Arabie, on va le voir. C'est qu'imaginez le reste de la planète, là, ben, c'est Cham, OK. Afrique, Australie, Asie, ici, les Amériques. Bon, on parle de Cham après, là, on va le voir. Donc, voyageur, tout à fait. Et là, c'est intéressant, verset 5, chapitre 10, ça dit que c'est par eux, donc les fils de Japheth, qu'ont été peuplées les îles des nations, dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan, dans leur nation. C'est qu'on voit déjà que la tour de Babel avait eu lieu lorsque ça a été écrit puis compilé ça, parce qu'on a déjà l'existence des langues. Et avant Babel, il y avait une seule langue qui était parlée sur la planète. Et ici, c'est intéressant, quand il mentionne les îles des nations, il y a vraiment ici une référence à la ligne côtière méditerranéenne qui incluait la mer Noire. C'est vraiment, à cette époque-là, les nations, là, ce qui se passait, c'était dans ce coin-ci, mais les îles des nations, vraiment une référence à toutes les îles et toutes les péninsules qui longent ici la région côtière de la Méditerranée, à partir de l'Espagne jusqu'à la mer Noire ici. Puis c'était ça, on appelait ça les îles des nations, puis c'était les Japhétiens, les fils de Japheth qui habitaient toute cette région-là. Tu sais. Chérie, tu viens de Japheth. Hein? Nous, mais t'habites en Bethune. Japheth, puis je viens de Cham, moi. Mes amis, puis on était ensemble. Alors, je vois, il parle. On a un peu de Cham, probablement. Moi, j'ai un peu de Japheth, peut-être, si on a des originaires de France. On s'en sortir. On devrait s'en sortir. C'est intéressant aussi, c'est mentionné. Dans ma Bible, c'est écrit les îles des nations, mais sûrement dans votre version, j'attends un petit peu, là, c'est-tu verset 6 d'abord, ça? Gentil, moi, c'est pas marqué gentil dans ma Bible. Y a-t-il une autre dans votre Bible qui s'est marqué les gentils? Oui, verset 5, il n'y a pas quelqu'un dans sa version, c'est marqué « Gentiles » et « Gentils ». En tout cas, je pense qu'en anglais, c'est marqué, quand ils disent « the Isles of the Gentiles », en anglais, c'est vraiment, c'est la première fois que le mot « gentil », en tout cas, est traduit. Nous, on l'a traduit par « nation », et ça veut vraiment dire « les gentils », les nations étrangères, OK? C'est la première fois que c'est mentionné, ça l'aurait appliqué au fils de Japheth. C'est intéressant parce que quelque part, ça revient dans le Nouveau Testament, quand Paul était l'apôtre des gentils, ou quand on va vers les gentils, c'est qu'on sort, si on veut, des descendants de Sem, puis on allait directement tout de suite vers les fils de Japheth. Là. C'est tous les fils de Japheth qui ont été évangélisés par Paul là, quand ils ont commencé à sortir. Les païens, là, c'est eux qui ont vécu, qui ont reçu l'Évangile en deuxième après les Juifs, là, on comprend? C'est pas les fils de Cham qui ont reçu l'Évangile tout de suite, parce qu'ils autres à l'autre bout du monde. Puis d'ailleurs, ça a pris, c'est de l'histoire récente que les Africains, les Américains, puis les Asiatiques reçoivent l'Évangile. Là, donc, quand on lit les Actes, c'est vraiment les fils de Japhet. Puis le terme gentil il leur est appliqué à Japhet pour la première fois ici au verset 5. Donc, les fils de Japhet ont probablement été de tendance plus philosophique et intellectuelle, et l'Europe, avec le temps, est devenue le centre du développement de la philosophie et de la science. On l'a vu dans l'histoire. On arrive au verset 6, oui.
Si au temps où ça a été écrit, on parle déjà des gentils, en parlant de Jésus, est-ce que ça veut dire que Jacob est déjà là? Parce que c'est juste depuis que Jacob est appelé Israël que, en comparaison.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est possible, faudrait que je vois si c'est une note éditoriale de la part de l'auteur de dire ce terme-là. C'est juste que moi, quand je l'ai lu probablement en anglais, dans la version en anglais, c'est que je suis surpris qu'en nos Bibles, on ne l'a pas traduit en français, gentil. Mais c'est clair que c'est après Babel, c'est au moins. OK, on tombe au verset 6. Je veux quand même passer les fils de Cham. Je me rends compte que le temps passe vite. On commence un petit peu tard le matin. Là, je vais essayer de commencer plus vers 9h pile. Verset 6, les fils de Cham. Okay? Les fils de Cham furent Cush, Mistraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Réma, Sabteka. Les fils de Réma, Sheba et Dedan. On est rendu avec les fils de Réma, on est rendu à la quatrième génération ici. Là. Donc, troisième. Cham, Cush, Réma et Sheba. C'est quatrième génération. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calné au pays de Shinéar. OK, fils de Cham. Cush, qui serait le plus vieux de Cham, verset 6. Dépendamment des Bibles, c'est K-O-U-C-H, C-U-S-H. Cush est le même terme que Éthiopie dans la Bible. Encore là, on va prendre des fois, lorsqu'on parlait de Cush, plus loin dans les prophètes, on parle de l'Éthiopie. OK? Si vous voyez, mettons, le nom de Cush, vous allez pouvoir faire un search dans votre Bible online, vous allez trouver Cush ailleurs. Donc, ça serait un de ceux-là, dans les fils de Cham, qui aurait descendu ici en Arabie, puis qui aurait traversé au niveau de la mer Rouge ici. Parce que le pays de l'autre bord, c'est encore jusqu'à aujourd'hui l'Éthiopie, okay, qui est juste l'autre bord aussi de la mer Rouge. La mer Rouge, on n'avait pas parlé tout à l'heure, là, mais Moïse, les Israélites qui ont traversé la mer Rouge, et d'autres qui étaient esclaves en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge à quelque part. Là, okay? C'est ça, c'est le long bras ici. Ils l'ont probablement traversé en haut ici, pour retourner en terre promise. C'est, la mer Rouge, elle se divise ici en deux bras qui sont beaucoup plus petits, puis éventuellement, ça va se jeter dans la mer Méditerranée. Ça va connecter avec la mer Méditerranée, là. C'était peut-être pas le même au début, c'est récent, ça.
C'est le canal,
c'est ça, le Suez, c'est ça. Donc, en tout cas, ils ont traversé probablement ici. Mais là, on parle, pour qu'ils soient en Éthiopie, parce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie est un peuple qui était puissant, mais ça a déjà été un peuple puissant, les Éthiopiens. Bon, Cush est vraiment celui qui est le père des Éthiopiens. Mitzraïm, qui est le deuxième fils de Cham, est l'ancêtre clair des Égyptiens, puis c'est même le nom qui est donné à l'Égypte. Souvent, on appelle l'Égypte par Mitzraïm dans la Bible. Donc, Mitzraïm est l'ancêtre des Égyptiens, puis c'est un nom biblique commun pour l'Égypte. Son père l'y a probablement accompagné. Donc, on dit probablement que Cush aurait accompagné son fils Mitzraïm en Égypte pour former ce qui est devenu éventuellement l'Égypte. Donc, Éthiopie, Égypte. On voit déjà une tendance de Cham d'aller vers le sud, OK? Puis là, on parle de deux empires qui ont été très, très puissants. Psaume 105, 23. Quelqu'un peut me lire Psaume 105, 23?
Ensuite, Israël entra en Égypte. Jacob émigra au pays de Cham.
OK. Donc, au pays de Cham, vous voyez, là, donc l'Égypte est carrément appelée le pays de Cham. Excusez-moi, c'est pas Cush. C'est probablement que Cham, à cause de ça, probablement que ça se pourrait même que Cham, en tant que personne, lui, serait allé s'établir en Égypte avec certains de ses fils ou ses petits-fils, OK? Parce que même l'Égypte est appelée le pays de Cham. C'est une proposition. Dans la Bible, on a troisième fils de Cham, c'est Put. Dans la Bible, Put est le même encore que la Libye. Et la Libye, on en a entendu parler dans les nouvelles, là, mais les Libyens, ça a été un peuple ancien. C'est le pays qui est juste à l'ouest ici de l'Égypte. C'est que la Libye qu'on a entendu parler, mais anciennement, Put serait à l'origine des Libyens. Donc, Libyens, Égyptiens, Éthiopiens. Okay? Et finalement, on a Canaan, qui est le plus jeune fils de Cham. Bon, les Cananéens sont vraiment retrouvés dans cette région-là. Ils sont restés dans la région de ce qui est devenu la terre promise pour les Israélites qui sont revenus de l'Égypte, sont allés conquérir la terre promise, étaient habités par les Cananéens, okay, les descendants de Canaan. Fils de Cush, on arrive au verset 7, les fils de Cush, le plus vieux de Cham. On a Sebam ou Saba, mais dépendamment des versions. Et Saba est un de ceux qui a traversé la mer Rouge à partir de l'Arabie. Ça en est un autre qui, à partir de l'Arabie, ici, aurait traversé la mer Rouge. Et a donné, Saba a donné son nom aux Sabéens. Et les Sabéens, c'est vraiment le peuple qui a dominé au Soudan à l'époque. Tout ce qui est le Soudan ici, c'est un autre méga pays. Le Soudan, encore aujourd'hui, là, ils ont tous des problèmes de sécheresse puis de guerre, de famine. Là, le Soudan, qu'on parle du Soudan, le Darfour, tout ça, c'est ici. Okay? Ça a déjà été une région avec un grand peuple éthiopien, les Sabéens, qui étaient originaires du Soudan. Donc, Saba est le père de ces gens-là. Ésaïe 45, 14, on les mentionne. Ésaïe 45, 14, rapidement, quelqu'un. Parce que même dans les Écritures, on voit que ces peuples-là vivaient autour d'Israël. Puis Dieu, des fois, avait des prophéties qui impliquaient ces peuples-là. Il s'en servait pour juger Israël. Puis des fois, il jugeait ces peuples-là parce qu'eux autres même avaient rejeté l'Éternel puis ils faisaient des atrocités, des abominations. Vous voyez, Ésaïe 45, 14.
Ouais. Si haut de taille, tout cela passera chez toi, cela t'appartiendra. Ils viendront à ta suite en marchant enchaîné. Ils se prosterneront devant toi en te disant un ton suppliant, c'est chez toi seulement que l'on peut trouver Dieu. Et en dehors de lui, il n'y en a pas
d'autre. C'est intéressant, c'est beau, chérie. C'est beau, chérie. Le point, c'est qu'il fait vraiment référence à trois peuples très riches pour faire son point. Ici, le prophète Ésaïe, la prophétie de l'Éternel, puis fait référence aux Éthiopiens, aux Égyptiens, puis au peuple de Saba. Aux gens de Saba, c'est vraiment les Sabéens ici, du Soudan. Des peuples très riches aussi. On passe à la reine de Saba aussi. Ça, c'est moi qui fais le lien actuellement, mais c'est une reine qui est allée constater la richesse et la sagesse de Salomon. Hein. Probablement qu'elle venait de cette même région-là. Oui, puis on voyait un jugement sur leur part en même temps. T'sais. Parce que tout originairement, on descend de la même personne. On voit d'autres, les autres fils de Cush, Avila, Sabta, Ramea et Sabteka. Tous ces fils-là, on retrouve, on les a relocalisés dans les noms en Arabie. Okay? Tous des noms qu'on a retrouvés dans l'Arabie. C'est que ici, Cham et Sem se sont un peu mélangés en Arabie. Ok. D'ailleurs, Cham n'est pas resté si longtemps en Arabie parce qu'éventuellement, c'est les descendants de Sem qui ont colonisé. Parce que les Arabes actuels, c'est vraiment les descendants de Sem. Okay? Mais pendant un temps, il y a eu des Chamites, là, des descendants de Cham qui ont été là parce qu'on retrouve même les noms. Seba est dedans. Là, on est rendu à la quatrième génération. Les fils de Réma s'appelaient Seba est dedans. Puis, pourquoi ils sont mentionnés juste ces deux-là? La suggestion, c'est qu'ils devaient être connus parce que plus tard, il y a même des neveux d'Abraham qui sont appelés Seba et Dedan. C'est deux de ses neveux. C'est comme si c'est des personnes qui ont été assez importantes pour même que certes, des générations plus tard, on nomme des fils du même nom. Versets 8 et 9. On arrive à versets 8 et 9. J'ai lu maintenant un des fils de Cush. Cush, on nous mentionne plusieurs de ses fils, mais on n'avait pas mentionné aussi Nimrod. On arrive au Nimrod, un fils plus jeune, il s'est dit « engendra aussi Nimrod ». Nimrod, ça veut dire, derrière tout ce texte-là, je vais terminer avec ça aujourd'hui, tout le texte, parce qu'on a un beau parallèle à faire ici avec la descendance de Caïn, avec la descendance de Cham, parce que c'est la seule personne qu'on nous mentionne un peu plus dans la descendance de Cham à ce point-ci, c'est Nimrod. Et on peut traduire les mots hébreux-là de différentes façons en français, OK? Ils ont traduit comme vaillant chasseur. Le même mot hébreu peut être traduit par tyran aussi. Puis un tyran, c'est très négatif. Vaillant chasseur, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être un chasseur, c'est très neutre, OK? Ça peut être, whatever, c'est très positif. Le point, c'est que je pense dans le texte ici, qu'est-ce qui influence l'interprétation du texte, puis comprendre un petit peu pourquoi il est mentionné, parce qu'éventuellement, cet homme-là, c'est lui qui va être l'initiateur de la construction de Babel. C'est comme la première personne qui est mentionnée qui s'est établie comme empereur. Il a vraiment dominé sur les hommes, puis il a bâti des méga-villes qui ont été connues jusqu'à aujourd'hui. Là, on les retrouve encore, Ninive, la ville d'Erech, qu'on retrouve Uruk. C'est des villes qui ont été super importantes, qu'on retrouvait, les archéologues ont retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est un des premiers à dominer, puis d'avoir un royaume. Ok. Son nom veut dire Nimrod, qui est le mot hébreu Nimrod, là, ça veut dire, en anglais, c'est « let us revolt », »,« révoltons-nous ». Ok, c'est ça que son nom veut dire, si tu le traduis, là, si tu prends son nom, tu le traduis en hébreu, ça veut dire « révoltons-nous ». Puis je crois que pour comprendre le texte, il faut vraiment penser à son nom, puis il faut penser que son nom, c'est pas lui qui se l'est donné, c'est son père qui a donné son nom, ok? Son père étant Cush, puis Cush étant le plus vieux de Cham. On est juste trois générations plus loin avec Nimrod. Et déjà, on voyait chez Cham, dans son cœur, des dispositions de rébellion. On l'a vu dans l'histoire avec Noé. Et déjà, son fils Canaan, le plus jeune, qui était le mononcle, si on veut, de Nimrod, okay, le fils de Cham, Canaan, déjà, c'était le fils que, dans la malédiction, dans la prophétie, Noé a ciblé comme étant le fils qui ressemblait le plus en caractère déjà à Cham. Si on voulait un bon exemple de la descendance, on veut, du serpent, ben là, Canaan était un bel exemple. Là, maintenant, Canaan, un de ses frères couche, a eu un fils, Nimrod, un de ses plus jeunes, puis son père avait à cœur de donner ce nom-là à son fils. Vous voyez un peu l'idée? Puis lui, son père, couche, est aussi au courant de la prophétie que Noé a donnée sur son père à lui, là, qu'eux autres, ils vont être les esclaves des esclaves, puis ils vont être maudits. Puis tu sais, quand Caïn a été maudit, c'est quoi qui a été sa réaction quand Caïn a été maudit? Dieu a dit, tu vas être errant sur toute la terre, toute la patente. Qu'est-ce qu'il est allé faire après que Dieu l'a protégé? Il est allé se construire une ville, puis pendant des décennies, les Canaïtes, les descendants de Caïn, là, ils se sont vautrés dans le développement, dans tout ce qui était développement humain, de la connaissance, la musique, la métallurgie, tout ça, ce qui est neutre en soi, mais c'est juste ça qui a marqué le développement. Puis déjà, il y avait de la rébellion de Caïn d'aller se bâtir une ville quand Dieu venait de dire qu'il allait errer toute sa vie. Puis là, on a vu dans ses descendants de l'arrogance. La même chose, on la retrouve. Ça, je veux dire, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. Quand le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu, mais ce que ça donne dans tes descendants, c'est si toi, ta vie est marquée par l'arrogance, la rébellion, c'est ça donne aussi. C'est ça que tu montres comme exemple. T'sais. Puis là, on voit que Nimrod a été élevé pour être quelqu'un, pour être quelqu'un qui se révolte, pour quelqu'un qui a été élevé par un père qui voulait qu'à travers son fils, il contrecarre la malédiction d'être le serviteur des serviteurs. Il dit, nous autres, on va aller à l'encontre de ça. C'est que, tu sais, il a élevé cet enfant-là qui devait avoir déjà dans son caractère assez de chien, là, parce qu'on s'entend qu'il a dominé sur les hommes. Ils ont bâti des méga-villes, là, tu sais, puis comme un seul homme, se sont élevés pour bâtir la tour de Babel. C'est vraiment, on peut s'imaginer l'éducation, l'arrogance, la vie indépendante de Dieu derrière ça. Même à la même façon, un bel exemple de la descendance du serpent, la même attitude que le serpent que Satan a eue, la même attitude qu'on a retrouvée, tu sais, la même attitude de rébellion, de remettre en question la parole de Dieu. On l'aurait vu chez Caïn, de pas accepter la malédiction. Là, on la revoit chez Couch, on la revoit dans son fils Nimrod. Et moi, je crois que si Nimrod veut dire ça, je pense que la meilleure traduction, ça serait dire que Nimrod a été un des premiers grands tyrans sur la terre et non pas un grand chasseur. Et lorsqu'on voit dans les traditions juives, vous connaissez peut-être je me rappelle pas le nom, là. Les Juifs, de là très longtemps, ont toujours développé une interprétation, si on veut, des commentaires sur la Torah, sur la loi, sur les livres de l'Ancien Testament. Je m'en rappelle plus exactement c'est quoi le nom, là, mais même eux ont interprété Nimrod comme étant un chasseur d'hommes. C'est intéressant de voir, les Juifs voient dans leur première histoire, Nimrod était un grand chasseur de l'Éternel, puisqu'il était bon à chasse puis tuait des dinosaures. Non. C'était un chasseur d'hommes dans le sens qu'il a été bon à dominer sur les hommes puis gagner s'imposer sur eux. Puis un tyran, c'est ça dans le fond. Un tyran, ça s'impose sur les gens puis ça domine sur eux. Puis c'est comme si cet homme-là a été éduqué là-dedans puis il a été le premier à pouvoir s'imposer et développer un genre d'empire, mais qu'il menait d'une façon tyrannique. Puis c'est une traduction qu'on peut donner au terme chasseur ici, qu'on a traduit chasseur. Et je pense que c'est la meilleure. Et quand ça dit, même toute l'idée, quand ça dit qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est vraiment « in the face of God ». Il y a toute l'idée d'impunité. Peu importe que l'Éternel était là pour voir ce qu'il passait, lui, ça, il n'a pas été gêné d'être un tyran en face de l'Éternel, OK? Dans ta face, « in your face », tu comprends-tu? C'est ça l'idée, là. Et alors que Dieu avait dit à travers la prophétie que ce n'est pas ça qui allait arriver, mais lui a décidé que non, moi je vais m'occuper pour salarié, m'a dominé sur les hommes, tu sais. Obtenir un ascendant sur les hommes. C'est la position des interprètes justes, comme je vous dis. Là. Rapidement, il y a eu tous les descendants de Cham et probablement beaucoup des autres aussi, des descendants de Japheth, qui ont été sous son influence et son leadership. Parce que quand on arrive au Genèse 11, à la tour de Babel, on va y arriver là, éventuellement. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Parti de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Puis là, ils disent, bâtissons-nous une ville. Ça ne dit pas que toute la terre est allée dans le pays de Shinéar pour bâtir la ville, mais il y avait un méchant paquet. Shinéar, c'est vraiment là, dans la vallée entre le Tigre et l'Euphrate. C'est que c'est encore vraiment dans le même coin. En Irak actuel, c'est là que le Tigre et l'Euphrate sont principalement dans l'Irak actuel. D'ailleurs, tout à l'heure, je mentionnais souvent l'Iran, l'Afghanistan, mais je ne mentionnais pas l'Irak qui est là aussi entre l'Arabie et la Syrie. Donc, l'Euphrate et le Tigre sont là. Et en sortant de l'Arche, il y a tout de suite une grosse vallée ici. Puis c'est là aussi, dans l'Irak actuel. Puis l'Irak actuel, c'est un petit peu la Babylonie actuelle. C'est là qu'il y avait tout l'Empire babylonien. Puis les villes comme Ninive, puis Our, puis Erech, puis tout ça, là, ces villes-là que Nimrod a bâties, là. Babel, tout ça, c'est les fouilles archéologiques qui se font en Irak. C'est là que ça a été trouvé. Beaucoup des fouilles archéologiques. Irak, peut-être un peu Syrie aussi, sud de la Turquie. C'est toute cette région-là ici. Donc, Nimrod s'est installé dans la vallée de Shinéar. On va le voir que c'est Nimrod, là, parce que les deux textes sont parallèles. Mais je ne m'embarquerai pas là-dedans. Donc, je finis. Oui, tout à fait. Donc, je vais finir avec ça parce qu'il est presque 9h. Bon, on s'est rendu jusqu'à Nimrod. Il est presque 10h. Et on fera quelques. Peut-être. Je vais terminer quelques petits commentaires. Je vous laisse là-dessus sur Nimrod. Nimrod a créé un empire qui a été centralisé à Babylone. Tu sais, Babel, là, la ville de Babel, c'est l'ancêtre de tu sais, c'est Babylone, ça vient de Babel, OK, l'empire de Babylone. Sur lequel il s'est établi roi. On dit qu'il a bâti la ville de Erech. On a retrouvé cette ville-là. Elle est aussi appelée Uruk. Elle est 100 000 au sud de Babylone. 100 000 au sud. Et ça, la ville de Uruk, Erech, ce serait la terre natale légendaire du héros de l'histoire babylonienne du déluge. Parce que les Babyloniens ont une histoire du déluge propre à eux. Avec un héros qui est pas Noé, mais qui s'appelle Gilgamesh, originaire de Uruk. OK? Cette ville-là. Puis c'est une ville qui a vraiment existé, que Nimrod a bâti. Ça voyait même dans ces peuples-là, ils se rappelaient qu'il y a eu un déluge. Ils ont inventé leur propre histoire du déluge avec un autre héros. Et on a Akkad qui a été bâti par Nimrod. Akkad a donné lieu à l'Empire Akkadien, qui était un super grand empire à l'époque aussi. Et ça a été l'Empire Akkadien, son synonyme, c'est l'Empire Sumérien. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Sumériens, mais les Sumériens sont originaires de cet empire-là de Nimrod. Et selon Wikipédia, c'est la première civilisation qui était véritablement urbaine. Même en faisant des fouilles, on réalise que la première civilisation probablement a été urbaine, organisée en forme de ville, c'était les Akkadiens. La Bible nous le confirme. Nimrod a bâti la ville d'Akkad, puis il a bâti plusieurs grosses villes, puis ces grosses villes-là, il les a appelées la grande ville. Vous allez le voir dans votre Bible, ça dit à un moment donné, la grande ville fait vraiment référence au fait que tout ce réseau de grosses villes-là fonctionnait ensemble parce qu'il y avait un gars qui régnait dessus. Il appelait ça la grande ville. Shinar, c'est l'équivalent de Sumer dans le texte de Shinar, Sumer. Donc, plus tard, Sumer va être identifié avec les Sumériens, avec Babylone. Si vous allez en Daniel 1-2, dans le prophète Daniel, vous allez voir que Babylone est identifié avec Sumer, avec Shinar. Donc, même quand Daniel était chez les Babyloniens et qu'il avait été tenu captif, anciennement, c'est un Shamite, c'est un descendant de Cham qui a parti le bal des Babyloniens et Nimrod. Donc, les deux empires que Nimrod a bâti, qui a parti, c'est-à-dire l'empire babylonien et l'empire aussi assyrien. Là, je ne vais pas trop m'éloigner, mais il y avait un autre empire en même temps, les Assyriens, et non pas les Syriens. Bien, plus tard, ces empires-là ont été conquis par des Sémites, par des descendants de Sem. C'est que c'est Sem, éventuellement, qui est venu, qui a dominé en Arabie. Mais initialement, ça a été Nimrod, un fils de Cham. Et c'est ça que je voulais dire en terminant par rapport à l'information. En revenant, on continuera avec les fils de Canaan. Parce que Canaan est un des ceux qui est dans la prophétie. Puis c'est à partir des fils de Canaan qu'on va retrouver les origines des Asiatiques puis des Amérindiens. Ce sera la prochaine fois, c'est intéressant.